Bonjour, je suis Jo Cohen du blog La Voix de l'Ayurveda. Aujourd'hui, j'interviewe Philippe Couturier. Alors, Philippe est docteur en pharmacie, aromathérapeute, formateur en Ayurveda et en aromathérapie Maharishi. Philippe, tu m'entends?
Oui, bonjour Jo.
Oui, bonjour Philippe. Alors, tu connais bien plusieurs types d'aromathérapie, donc je vais te poser ma première question. Qu'est-ce qui différencie l'aromathérapie qu'on pratique en Occident, et notamment en France, puisqu'on a eu les travaux du docteur Jean Valnet qui ont fait connaître, je dirais, cette approche de la santé, et l'approche de l'aromathérapie selon l'Ayurveda? Les points de différence.
Alors, pour ce que je connais de l'aromathérapie Ayurveda, c'est principalement le référencement, les points de référence. C'est-à-dire qu'en Occident, en Europe, en France, avec le docteur Valnet, on parlait beaucoup de chimie, et bah, plus maintenant encore qu'avant qu'avec le docteur Valnet, parce qu'avec le docteur Valnet, il parlait plutôt d'expérience, parce que c'était un médecin de terrain, un médecin militaire qui a travaillé sur le terrain, donc qui a vraiment mis les bases de l'aromathérapie médicale. Et la suite de ses disciples directs ou indirects, je pense par exemple à Dominique Baudou avec qui j'ai travaillé, ils ont suivi ce chemin et ils ont tenté de codifier d'un point de vue moderne, c'est-à-dire d'un point de vue chimique, les effets produits par l'utilisation des huiles essentielles dans le domaine de la santé. En Ayurveda, l'Ayurveda n'est pas une science toute récente, hein, puisqu'elle a un minimum de 5000 ans d'âge.
Oui.
Et il est vrai que lors de la formation que j'ai suivie, j'ai été très surpris de voir que des Védias, donc des spécialistes, des médecins de l'Ayurveda, étaient présents, et non seulement présents, mais avec moi, c'est-à-dire du même côté de la table, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant. Et là, effectivement, c'est assez surprenant, parce que l'Ayurveda connaît les huiles essentielles, connaît l'aromathérapie, mais les connaît principalement sous l'angle des plantes aromatiques. Ce qui modifie la donne actuellement, c'est la technologie qui a permis de développer en quantité et en qualité, peut-être aussi, là c'est encore à voir, en tout cas en quantité, de voir la quantité d'huile essentielle qu'on est capable de produire, parce qu'on peut reproduire cette expérience grâce à des appareils qui sont super performants et qu'on n'avait pas à des époques reculées, que je vais qualifier de reculées, mais la technologie n'était pas du tout la même. On était avec des pots en terre, on était avec des choses tout à fait différentes, mais malgré tout, la connaissance était là. Donc l'Ayurveda, plus pour l'instant encore, bien que je fais partie, on pourrait dire, de ce mouvement de rénovation au point de vue de l'utilisation des huiles essentielles, donc l'Ayurveda plus en termes de plantes aromatiques. Donc c'est là le point de départ de l'utilisation des huiles essentielles dans le domaine de l'Ayurveda par le biais des plantes aromatiques.
D'accord. Si je te
comprends la question.
Oui, si je te comprends bien, il n'y a pas tant de différence que ça. Simplement, on ne fait plus référence à la chimie et à tout ce potentiel de connaissances scientifiques. Comment ça se passe vraiment?
En fait, il faut que j'explique quand même la différence actuelle, parce que l'Ayurveda, c'est une science profonde, universelle, mais qui, comme tout système, avec le temps, bien subi des usures.
Oui, hein, je comprends. Oui, tout à fait.
Donc, moi, l'Ayurveda auquel je me réfère, c'est bien sûr l'expérience plus que millénaire de l'utilisation des plantes aromatiques. Mais c'est aussi quelque chose de plus, c'est-à-dire une cohésion, un ensemble. Hein. Donc, pour ce qui est de l'Ayurveda, tel qu'on le connaît dans le monde actuellement, qu'on connaît en Inde, je dirais que la différence, elle se situe principalement dans l'approche entre par les trois doshas, vata, pitta, kapha, pour ce qui est de l'Ayurveda, donc dans l'aspect diagnostic et l'aspect, oui, principalement c'est ce qui fait le pilier en fait hein, de l'Ayurveda de l'utilisation, et puis l'approche occidentale qui est plutôt centrée, elle, presque uniquement, je dirais bien presque uniquement, hein, sur, en tout cas son grand flot sur la chimie, qui essaye de comprendre l'aromathérapie par le biais de la chimie.
Si je comprends bien, donc ça veut dire que les huiles essentielles sont classées dans l'Ayurveda selon leur qualité Vata, Pitta, Kapha.
Voilà, tout à fait.
C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Hein. On les utilise, mais comme c'est un angle d'approche, on peut avoir une autre approche. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quelle que soit l'approche que l'on ait, c'est qu'on arrive à un résultat intéressant, probant et qui puisse être renouvelé et fiable. Donc l'approche chimique n'est pas négligeable, elle est complémentaire parce qu'elle fait partie en fait. Et si l'approche chimique est correcte, on va retrouver ces valeurs dans le triplet Vata Pitta Kapha et vice versa. Si la raison Vata Pitta Kapha est bonne, eh bien, on va retrouver des correspondances chimiques.
Et c'est ça. D'accord. Toi, tu connais les deux systèmes. Tu as noté ces convergences.
Tout à fait.
Parce que vraiment, c'est ça qui est passionnant. L'aromathérapie, d'une manière générale, occidentale, elle donne des résultats. Et ça, c'est indéniable. Tu es bien placé pour le savoir.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de tout ça un ensemble cohérent et qui marche ensemble. Parce que c'est tout à fait possible.
D'accord. Donc on a un référencement qui est basé sur les trois doshas Vata, Pitta, Kapha. Est-ce que il y a un référencement qui va éventuellement plus loin, c'est-à-dire qui intègre les sous-doshas, hein, puisque on sait que Vata a des sous-doshas.
Voilà.
c'est exact. Donc les plantes sont aussi référencées par rapport à ces qualités-là.
Tout à fait, parce que les sous-doshas restent des doshas.
Oui, essentiellement. Oui, nous
sommes bien. Et quand on regarde la composition chimique, parce que quand on regarde la composition chimique, on voit que chaque atome a des qualités Vata, des qualités Pitta, des qualités Kapha. Donc, par la connaissance chimique, on peut presque en déduire la validité ayurvédique en termes de Vata, Pitta, Kapha. Et si les deux concordent bien, ça peut permettre à l'un de s'orienter vers plus de précision et plus d'efficacité.
D'accord. Donc on a une convergence certaine entre les deux approches, donc qui là se trouve être intéressante, hein, puisque c'est une médecine alternative, hein, l'aromathérapie, à côté de l'Ayurveda, qui a aussi ce statut aujourd'hui, en tout cas en Occident, de médecine alternative, même si on sait qu'au niveau l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu l'Ayurveda en tant que système complet de médecine. Alors, est-ce que il y a des textes faisant référence à l'utilisation des huiles essentielles dans la tradition védique, et ces textes sont-ils simplement la charaka, ou est-ce que c'est plus de l'expérience, parce qu'on sait que beaucoup de techniques de l'Ayurveda ont été conservées au sein de familles qui pratiquaient cela en transmettant, je dirais, le savoir de père en fils et ainsi de suite.
Oui, on reste avec l'aromathérapie ayurvédique. On reste dans l'Ayurveda, c'est-à-dire que on est comme pour la chimie en Occident il y a, on va dire, deux siècles, c'est-à-dire qu'on découvre dans l'Ayurveda un potentiel dans l'aromathérapie et tout est à construire, on pourrait dire tout est en train de se construire en ce moment, parce que c'est une technologie tellement nouvelle, même pour l'Ayurveda, mais c'est l'Ayurveda ne néglige rien, puisque tout est potentiellement sujet à rééquilibrer les trois doshas. Donc, c'est une école qui est à mettre en place, mais le fondement de l'aromathérapie, c'est malgré tout les plantes aromatiques. Et même chez nous, en termes de chimie, on utilise les plantes, les huiles essentielles, on voit qu'elles ont un rapport très, très, très fin et très subtil et très évident entre les tisanes, hein, entre les gélules que l'on vend dans les pharmacies, tout ça, on fait une séparation de cette spécialité, mais c'est qu'une feuille dans l'ensemble, hein, de la phytothérapie. Donc
D'accord, je comprends mieux. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui en Inde, l'aromathérapie ayurvédique est largement pratiquée ou c'est quelques médecins par-ci par-là qui ont un petit peu plus de curiosité que les autres qui l'utilisent? Comment?
Alors, à ce niveau-là, j'ai aucune expérience.
À ta connaissance, oui.
Je suis jamais allé en Inde et c'est vrai que j'ai pas l'idée de ce que vaut même vraiment l'Ayurveda en Inde. Donc moi j'ai qu'une approche typiquement occidentale et je veux dire
D'accord.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là je peux pas répondre.
Alors est-ce
mais,
que
mais par rapport à ce que j'ai entendu, c'est vrai que pour rester sur cette image, c'est vrai que c'est quand même une approche récente. Hein. Donc il faut lui laisser le temps aussi de se mettre en place et puis de donner sa valeur et puis d'un point de vue technologique et à la fois diagnostic et application, mais que ça se mette en place, quoi, ça s'équilibre.
D'accord. Est-ce qu'on utilise les mêmes plantes, je dirais, dans l'aromathérapie en Ayurveda qu'en Occident, ou est-ce qu'il y a des plantes différentes, spécifiques, puisque on sait qu'il y a beaucoup de plantes typiquement indiennes, je dirais, utilisé dans l'Ayurveda. Qu'est-ce qu'il en est au point de vue des huiles essentielles?
Alors, il en est des huiles essentielles comme des plantes. C'est-à-dire que on met sous le terme d'Ayurveda ce que l'on prend dans la culture indienne qui a travaillé l'Ayurveda. L'Ayurveda étant un processus, étant une connaissance universelle, tout notre travail, nous, là où on est, en France, c'est justement d'adapter ces connaissances et d'utiliser en fait les plantes qui sont chez nous. Donc pour l'instant, effectivement, on a tendance à aller chercher éventuellement des huiles essentielles ou des plantes externes. Mais pour mon usage personnel, dans ma pratique, j'utilise ce que l'on trouve sur le marché, c'est-à-dire des plantes qui sont françaises, européennes, africaines, asiatiques, américaines. Parce qu'on peut utiliser... Et en Inde, bien sûr, ils ont leurs plantes bien spécifiques. Ils ont sans doute plus d'utilisation que nous, mais moi, dans ma pratique, j'utilise ce que j'ai sous la main. J'utilise l'oranger,
voilà,
j'utilise la bergamote, j'utilise toutes ces choses,
d'accord.
La verveine, etc. Hein, le thym, le romarin, etc. Donc, c'est de l'Ayurveda. Hein.
Non, je te pose la question parce que moi, je me demandais, est-ce que, par exemple, l'ashwagandha, qui est, on va dire, la plante anti-stress par excellence hein, dans l'Ayurveda, est-ce qu'il en existe une version huile essentielle qui serait encore plus efficace, encore plus anti-stress que la plante
Alors, ça, c'est cette question, je dirais que c'est le piège.
Ah.
C'est le piège par excellence de celui qui la pose.
Je t'écoute.
Parce qu'en fait, ce dont je me rends compte, c'est que on a tendance à porter à l'extérieur la solution à nos problèmes. Alors qu'en fait, dans l'Ayurveda, elle est bien inscrite, en tout cas moi, c'est quelque chose de... On a autour de soi la solution à ses problèmes. Donc la plante anti-stress, je dirais que c'est la méditation, hein, c'est la transcendance.
Oui.
Et que quand on a faim, eh bien on mange ce que l'on a dans son jardin d'abord, hein, ou si on va chercher des choses de sa région, eh bien la plante anti-stress, elle n'existe pas, parce que si soi-même on ne se met pas dans une situation anti-stress, eh bien la plante va pouvoir nous apporter quelque chose. Je dis pas que la camomille ne nous calme pas, que le tilleul ne nous calme pas, mais il y a un degré d'utilisation, il y a un degré de pouvoir en relation avec notre hygiène de vie, et je crois que c'est ça qui fait la différence dans l'application entre moi, ce que je vois en tout cas par rapport aux demandes de que je vais appeler mes clients, hein, c'est qu'effectivement, si on a cet esprit de dire je vais utiliser une huile essentielle pour me calmer mon stress, eh bien je leur dirais prenez un Temesta ou prenez autre chose, parce que finalement votre demande, elle est je suis consommateur, donnez-moi pour me débarrasser, pour pas que j'aie à m'impliquer, et à ce moment-là, tout ira bien. Donc là, effectivement, on peut faire cette aromathérapie-là, et on peut utiliser l'Ayurveda pour ça, et je pense que là, à ce niveau-là, il faut se poser la question, hein, je crois.
Mais, oui, d'autant qu'on sait très bien que la méditation a un effet énorme sur la santé, elle est même la clé de la santé. Hein, donc,
et on peut dire que c'est dans le terme aussi, c'est un système d'autoréférence. C'est-à-dire que si on est autoréférent, c'est pour ça que les plantes ayurvédiques, c'est un faux débat. Parce qu'elles sont toutes ayurvédiques. Oui, la verveine, la mélisse que j'ai dans mon jardin et que tout le monde prend pour la citronnelle, eh bien, c'est un remède fabuleux, aussi bien pour digérer que pour s'endormir, que pour s'apaiser. Mais on a tendance à vouloir chercher d'autres plantes plus lointaines, alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut sous notre main.
D'accord. Ça veut donc dire qu'il existe aujourd'hui un référencement des huiles essentielles que l'on connaît communément en Occident, selon les Vata, Pitta, Kapha, et voire même les Sudoshas.
Oui, pour l'instant, en tout cas pour ce qui me concerne, parce que je suis concerné principalement par les trois doshas, sans trop aller chercher dans les Sudoshas, même si l'action est faite, parce que tout est lié, hein. Eh bien, c'est vrai que j'ai devant moi une liste de 70 huiles essentielles qui sont tout à fait connues et tout à fait référencées, et ça s'arrête pas là, parce que sur le marché, on en trouve, je dirais, environ 300 huiles essentielles qu'on peut trouver facilement et qui sont référencées Vata, Pitta, Kapha. Hein. Ce sont des plantes communes.
Voilà. D'accord. Est-ce que la qualité disons de ces huiles essentielles influent sur les résultats et quels sont les critères essentiels? Est-ce que ça doit être simplement du biologique, on va dire, ou est-ce que dans les procédés d'obtention de ces huiles, il y a des points auxquels il faut faire attention? Comment tu vois ces points?
Alors je dirais d'un point de vue professionnel, pour celui qui est engagé et qui cherche à connaître ces produits et l'histoire, c'est sûr qu'il... On doit faire attention à la qualité. Pour ce qui est du néophyte, de la personne qui veut se soigner, qui veut s'aider, qui veut se faire aider par les huiles essentielles, c'est vrai que c'est un petit peu difficile certaines fois de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et puis généralement, ben on n'est pas tous des passionnés et des docteurs en pharmacie, donc on ne sait pas trop non plus à quoi se raccrocher. Mais moi, j'ai pour critère, encore une fois, l'autoréférence, c'était l'expérience. La qualité, pour moi, c'est une question d'expérience. Ça se vérifie avec le nez. C'est-à-dire que si on voit une différence, si on est attiré plus sur une même huile essentielle, si on est attiré plus vers l'une que par l'autre, ben, je crois que c'est celle vers laquelle on est le plus attiré qu'on va aller. Et c'est celle-là qui va faire de la qualité pour nous. Donc, mais c'est vrai que le minimum, on pourra dire, même si des gens... On peut penser que ça n'a aucune importance. Je dirais le bio tel que l'on a chez nous, avec le label AB en France, devrait être le minimum.
Un minimum.
De pollution. Devrait être le minimum. Parce que c'est malgré tout une assurance que les produits ne sont pas transformés, on n'a pas extrait une molécule, on n'en a pas rajouté, on n'a pas fait de mélange. Le label AB est beaucoup plus strict que n'importe quel critère, dirais-je, chimique. Classique. Oui. Parce que la chimie, on veut une molécule, on s'occupe pas de savoir après d'où elle vient, comment elle a été faite, même si tout ça est standardisé. Mais la qualité intrinsèque du produit s'arrête à sa structure chimique. Alors qu'avec le bio, on a quand même une qualité un peu différente. Parce qu'on n'a pas cette influence des produits chimiques, ni à la culture et à tous les étages. Ça, c'est le premier niveau de qualité. C'est une qualité minimum, je dirais. On devrait pas s'arrêter là, mais c'est ce qu'on devrait exiger minimum. Après, eh bien, les qualités peuvent être variées et diverses. Après, on sait très bien que un plat fait avec amour à la cuisine, eh bien, est sans doute plus meilleur à manger qu'un plat fait à la vite fait. Hein. Donc, eh bien, là, il y a des possibilités énormes dans ce domaine. Et là, chacun a ses critères, hein, puisque maintenant, on développe des labels éco-équitables, etc. Donc, là, il y a à faire. Donc, on peut envisager, et c'est déjà en route, un label bio-ayurvédique, hein, ou ayurvédique. Et on peut même aller encore plus loin, parce que c'est ce que je souhaite, c'est un bio-ayurvédique Maharishi. Donc c'est ça, déjà rien qu'à avoir dit biovédique ou ayurvédique, ça devrait suffire.
D'accord. Et les critères qui interviendraient à ce moment-là, ce seraient lesquels?
Ce seraient des critères de conscience, hein, de qualité de conscience, je dirais à tous les étages, de la culture jusqu'à l'utilisation. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque profonde de chaque individu, ce qui fait son donc, identité, son existence, hein, oui, sa valeur de référence, sa valeur profonde, eh bien, soit protégée, soit développée au maximum. D'abord dans la personne,
oui,
et ensuite dans le produit, dans la plante. Parce que il y a des modes de culture bio-védiques, hein, qui sont des modes de critères, des modes de culture différents de simplement du bio-AB, hein, qu'on pratique chez nous pour l'instant.
D'accord. Donc ça va plus loin que le bio. C'est-à-dire on va tenir compte de, on va dire, l'état de conscience de du producteur, de l'agriculteur, hein, donc qui aura produit la plante, de celui qui va la transformer derrière, voire de celui qui va éventuellement la distribuer. Donc c'est toute une chaîne où on prend finalement l'état de conscience de chacun.
Voilà, l'objectif étant, comme dans tout projet, eh bien d'élever ce niveau toujours plus et plus. C'est sûr qu'on peut pas prétendre, comme pour le bio, on peut pas prétendre avoir fait du bio parfait tant que la planète sera pas bio, on pourrait dire.
Oui, hein, oui.
Donc eh bien là on est dans le même schéma, mais ça veut pas dire que ce qui est fait est nul. Ça veut dire que ce qui est fait, eh bien, est au mieux de ce qui peut être fait actuellement. Et donc là tu viens de parler des hommes, mais on peut parler aussi des plantes. Parce que les plantes sont des entités vivantes, elles poussent, elles germent, et elles ont besoin aussi de vivre dans un environnement particulier, favorable, comme nous, on aime bien être avec nos amis, et bien tout ça, pour la plante, c'est très important. Hein. Et si on arrive à mettre la plante à ce niveau de notre existence, et notre existence au niveau de la plante, là, on peut parler d'une coopération intéressante.
D'accord, mais on y va. On y va. C'est la direction que l'on prend, même si le chemin risque d'être long, mais c'est pas grave. On va toujours vers mieux, et c'est ça l'essentiel. J'avais vu récemment, pour aller dans le sens de ce que tu dis, un Védia, donc un médecin ayurvédique, donc qui choisissait des huiles essentielles, donc en les respirant, et en même temps il avait donc ses doigts, il prenait le pouls de la personne donc qui venait demander des recommandations, et en fonction de ce qu'il ressentait à la fois dans le pouls et au niveau du nez, il choisissait plutôt telle huile ou telle autre huile. Tu as vu des choses comme ça dans ton expérience?
Ah oui, tout à fait. Hein. C'est une technique, on pourrait dire, thérapeutique. Parce que on est là dans un système de référence et d'autoréférence parfait. Parce que le médecin en direct, le Védia en direct perçoit le changement. Et on sait par les théories modernes de la communication, hein, que tout observateur influence l'objet observé. Donc, c'est vrai que c'est une pratique très intéressante. Hein. Très intéressante.
D'accord.
Qui n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Hein, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer pour soi-même.
Oui, 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 tout à fait. Et c'est pour ça que j'en parlais. Et tu disais donc que toi, tu sens les huiles et tu auras celle forcément qui te donnera le meilleur feeling. Et c'est celle-là que tu auras tendance à favoriser. Bon, moi, ça m'arrive aussi de faire des choix d'huile. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Alors, bon, je ne savais pas que c'était universel, donc c'est pour ça que je te posais la question.
Pourquoi c'est universel? Parce que, à part quelques exceptions, tout le monde a un nez.
Oui.
Et tout le monde est capable de sentir. Simplement, on oublie que c'est une porte ouverte vers le monde et qu'on peut l'utiliser dans les deux sens, à la fois pour connaître et à la fois pour donner. Donc c'est un potentiel, et puis voilà.
D'autant que le nez n'est pas très loin du cerveau, donc de la conscience quelque part.
Ouais. Mais les yeux aussi, hein.
Les yeux.
Et les oreilles non plus. Je fais pas d'exclusivité, hein. Je fais pas d'exclusivité parce que pour moi c'est vraiment qu'un canal. On a cinq sens de perception et en plus on a l'intelligence derrière. Donc c'est au niveau de l'illumination, il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'un canal particulier.
D'accord. En Ayurveda, on utilise donc les huiles essentielles aussi en interne, en externe. Comment?
Tout à fait. Tout à fait. Oui, vraiment comme les plantes aromatiques. Simplement comme on a un concentré, eh bien on aura une attention particulière sur le dosage, sur la quantité. Mais en même temps, on a une capacité d'action beaucoup plus évidente, des fois beaucoup plus forte, hein, je vais dire, en termes de puissance et des fois de réactivité. Mmh. Dans certains cas. Mais il en est des huiles essentielles comme des plantes et comme de la chimie. C'est aussi un effet de dose. Il suffit pas d'avoir le bon produit ou le soi-disant bon produit. Il faut aussi avoir la bonne dose. Et des fois, la bonne dose n'est pas forcément dans le volume, dans la quantité. Ça, c'est la valeur de toute thérapie, hein, il me semble. En tout cas, on en a un exemple flagrant par le biais de l'homéopathie, hein, qui nous montre bien qu'avec une portion infime de la matière de la plante, on arrive à faire des choses extraordinaires, j'allais dire. Eh bien, en aromathérapie, c'est la même chose. Donc, mais certains sont plus portés à l'utilisation intensive et d'autres plus portés vers une utilisation très subtile. Et puis, il y a la marge entre les deux.
Hein. D'accord.
Beaucoup de choses.
D'accord. En usage externe, c'est essentiellement de diffuser les huiles essentielles pour les respirer ou il y a d'autres mécanismes qui sont utilisés?
Il y a l'application sur la peau.
L'application sur la peau, oui. D'accord.
Il y a les bains qui sont pas à négliger.
Les bains, d'accord, oui. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait déjà en Occident.
De toute façon, il y a, de ce côté-là, il n'y a pas de différence, hein, j'allais dire.
D'accord.
Après, c'est une question de savoir comment les utiliser, quelle dose, quel mélange si on fait des mélanges, et puis de peaufiner sa méthode thérapeutique et aussi sa méthode de diagnostic. Mm-hmm. Mais on n'a pas inventé le corps humain en Ayurveda ou en médecine moderne. Il a ses potentialités. Après, si on les connaît, eh bien, on connaît le pouvoir fantastique antibactérien, antiviral, antimycosique des huiles essentielles. Eh bien, s'il y a une plaie quelque part, eh bien, il faut savoir l'utiliser aussi.
Hein. Mm-hmm.
Et que ça soit par le biais de la connaissance ayurvédique ou de la connaissance chimique, s'il faut nettoyer une plaie, il faut la nettoyer. Donc on va l'utiliser en action directe et des fois pas forcément très concentré, hein, mais en application directe. Soit seul, ce qui est rarement le cas sur une plaie, plutôt en dilution, hein, en dilution dans une huile ou dans un mélange d'huile et d'eau. Après, on peut imaginer tout un tas de procédures, compresses, etc.
D'accord.
Et de la thérapie.
En Inde du Sud, j'ai entendu dire que bon, ils utilisaient beaucoup ce qu'on appelle les points marma, en conjonction avec des huiles essentielles. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose?
Oui, c'est quelque chose qui me parle.
Oui.
Pour rester plus européen et peut-être aussi plus français, je préfère parler de centres d'énergie parce que ça reste
Marma. C'est plus dans la tradition.
Pour l'instant, Marma, c'est une culture, c'est toute une connaissance et je pense qu'on a. Même si l'utilisation est là, c'est comme quand on avale quelque chose, quand on mange, eh bien, on peut parler des détails que ça passe par la trachée, que ça passe par l'estomac, que ça passe par le pylore, etc. On peut décrire toutes ces choses, mais ça, ce qui fondamentalement est intéressant, que c'est ce qu'on mange et puis ça donne de l'effet. On sait où le mettre et ça agit. Mais c'est vrai que c'est une connaissance qui est à explorer et qui est aussi à relier peut-être à adapter maintenant, hein, à rénover aussi.
Mais est-ce que
je vais pas m'étendre dessus parce que moi je suis pas dans cette référence Marma, je suis dans la référence centre d'énergie.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que dès aujourd'hui, quand tu recommandes d'utiliser telle ou telle huile, tu dis voilà, il faudrait la mettre dans la région du cœur ou je sais pas moi, voilà. Au niveau du cou, au niveau, il y a déjà une localisation, on va dire. Oui.
Tout à fait.
C'est tout à fait ça. D'accord.
Parce que aussi traditionnellement et puis d'un point de vue public, c'est tout à fait, on est à l'aise avec ça. On est à l'aise avec ça, donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, hein, puisque les médecines chinoises et les médecines, même les médecines naturelles, naturellement, ont cette affinité. Mais un langage spécifique, pour l'instant, à mon avis, n'est pas adapté.
D'accord. Si tu avais à recommander, disons, une huile simplement pour diffusion, pour apaiser Vata, Pitta, Kapha, par exemple, quand on est dans un bureau ou qu'on est chez soi le soir, on va se mettre au lit, qu'est-ce que tu recommanderais comme huile courante, on va dire?
Là, une référence, je dirais, universelle, hein, c'est les agrumes. Hein, par exemple, le citron, la bergamote, hein, la mandarine. Hein, ça, c'est des références en termes de pour calmer Vata. Hein,
Oui, d'accord.
Le voit facilement. Donc, et c'est vrai que, au point de vue de l'expérience, c'est accepté très facilement. Hein, on n'a pas de. Moi, pour l'avoir expérimenté en direct dans les lieux où j'ai travaillé, je diffuse un peu d'agrumes, pas de commentaires,
Pas de réaction.
pas de réaction, très bien. Je mets de la lavande déjà. Il y a déjà de la réaction. Parce que c'est déjà moins universel. Même si elle a la qualité aussi de
d'apaiser le Vata.
D'apaiser, mais bon.
Voilà. D'accord.
C'est vrai que, bon. Et il faut se dire aussi que, Vata, Pitta, Kapha sont des valeurs relatives.
Oui, hein? Oui, bien
donc,
sûr.
Donc, et puis en même temps universel, donc, dans une certaine, quand il fait très 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 chaud, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on est une période pitta. Mais quand on est dans un pays froid où il fait une moyenne de 0 degré et puis que la température monte de 10 degrés, bah certains diront non, alors qu'en fait on est bien déjà dans une zone pitta. Donc voilà. Voilà. Donc au niveau des huiles essentielles, on n'a pas non plus que, comme pour les hommes. Hein, et comme la nature même de Vata, Pitta et Kapha sont présents partout. Hein, c'est simplement leur état de leur proportion, hein, qui fait l'originalité du lieu ou de l'endroit. Donc une plante, une huile essentielle n'est jamais uniquement Vata, uniquement Pitta, uniquement Kapha. Donc on a toujours ce Vata, Pitta, Kapha. Toujours les trois ensemble. Donc après, à nous de savoir si la qualité Vata qui va être le plus nécessaire, qui a besoin d'être équilibrée, et dans quelle partie va vraiment fonctionner. Donc d'accord. On peut avoir certaines certitudes, on a certaines valeurs universelles. C'est vrai que pour l'instant, l'expérience montre que pour calmer Vata dans un lieu public, bien c'est vrai que les agrumes sont très bien.
Et pour Pitta,
Pitta, bien là, je veux dire, on en a aussi.
Oui.
J'ai les valeurs de rose.
Hein. La rose, oui.
Rose, hein. Donc, rose, ça veut dire aussi palma rosa, ça veut dire géranium rosa. Hein. Ça veut dire, lorsqu'on aura un parfum de rose à l'intérieur, eh bien, on aura tendance aussi à calmer Pitta. Même si pour chacun, le degré est différent.
Hein. D'accord. Mais ça, c'est déjà plus difficile à faire accepter dans un lieu public.
Et on a, par exemple... Oui. On a des fleurs, on a des, qu'est-ce qu'il y a, que je regarde là dans ma petite liste. La menthe, un peu calmée, un petit peu pitta, hein, ça dépend.
Oui.
Un peu calmée, oui. Pitta, mais, bon, c'est vrai que les pitta, la coriandre, mais c'est vrai que c'est pas des parfums, la camomille, hein, on a des choses qui sont, en termes de pitta, qui sont très intéressantes, mais déjà moins intéressantes pour la diffusion. Moins classique, hein, c'est déjà plus précieux.
D'accord.
On a dit l'anguilang, hein, qui calme bien le pitta, mais qui est déjà très partagé au point de vue des l'expérience.
Hein, oui, 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 mais c'est l'anguilang, on peut pas mettre ça n'importe où.
Voilà, mais donc voilà, donc les expériences, on sent bien que si on veut avoir une senteur universelle, bon, pour Vata c'est assez clair, parce que ça semble être assez clair. Pour Pitta ça l'est déjà moins. Et Kapha, ça sera encore moins évident.
Et Kapha, par exemple, s'il y avait
une huile... Pour Kapha, dire pour la période d'hiver, la période de rhume et tout ça, c'est vrai que c'est évident avec les eucalyptus, avec toutes ces, même les lavandes, les plantes qui sont un petit peu camphrées. Hein, on peut avoir la lavande aspie, on peut avoir un lavandin, on peut avoir, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai là dans même le niaouli, hein. L'origan, le sapin, toutes ces choses sont vraiment du kapha. Et c'est vrai que, naturellement, on les utilise pour les maladies kapha, les maladies bronchiques, hein, des bronches, des voies respiratoires. Donc, quant à les aimer, c'est autre chose. Mais pour l'aspect thérapeutique, C'est vrai que on a là une gamme de produits qui est très référencée et très utilisée en pharmacie depuis longtemps.
Hein, d'accord. Donc, mais en tout cas, donc, les lecteurs du blog pourront tester ce qui convient pour eux.
Exactement. Voilà. Après, voilà. C'est une question de test, ouais. Aussi bien dans la qualité que dans la quantité, parce que pour ça. Et puis oui, et puis dans le mode opératoire, parce que certains, la diffusion, dans certains moments, la diffusion est suffisante, principalement pour se protéger. Mais oui. Quand on a un bon rhume, il faut.
Oui, il faut aller.
La simple diffusion est insuffisante.
Oui, oui. Et là, il vaut mieux passer par l'expertise de l'art, comme on dit.
Voilà, exactement.
une dernière question, Philippe. Je sais que souvent, dans les bureaux, les gens qui ont des responsabilités ont une forte activité mentale et que le vata mental, on va dire, se déséquilibre assez facilement. Est-ce qu'il y a une essence, une huile qu'on peut leur recommander à diffuser dans le bureau, justement, pour maintenir un certain niveau d'apaisement à ce niveau-là?
Dans mon approche et dans mon expérience de quotidien, hein, quant au c'est favoriser la loi la plus présente dans l'univers, qui est la loi de l'attraction, la loi de la gravité.
Oui. Mais alors, concrètement,
quand on aime, on compte pas. C'est-à-dire que quand on aime, on y va. Si on aime une plante, si on aime un parfum, oui. Eh bien, naturellement, si on l'aime, il satisfait quelque chose de profond en nous. Donc forcément, il nous apaise. Il nourrit quelque chose, il ramène un certain équilibre. Et plus la différence est grande, et plus l'attraction sera grande. Donc moi, dans ce domaine, c'est vrai que j'arrive pas à me fixer sur une huile ou une autre huile essentielle. Je pense que c'est l'autoréférence et n'est pas nécessaire, je dirais que même je privilégie l'unicité, c'est-à-dire de trouver simplement, des fois en profitant d'un salon, en profitant peut-être de ses moyens, en achetant quelques huiles essentielles à laquelle on aime bien, et de trouver cet apaisement.
Oui, on va profiter d'ailleurs du salon Marjolaine, je pense que le salon a lieu bientôt.
C'est en plein là, je pense. Hein.
Ah, on est en plein dans le salon Marjolaine. Ici. Ben c'est parfait, donc ça sera un bon moyen d'aller tester, j'allais dire de visu,
oui,
comment dire, de tester olfactivement.
Parce que les laboratoires généralement sont ravis de pouvoir faire sentir leurs huiles essentielles, donc c'est vrai que j'ai profité et j'ai fait profiter de cette expérience à des gens parce que j'ai l'occasion de découvrir justement des senteurs qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous ravir, vraiment nous ravir.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. Je suis sûr que les lecteurs du blog La Voix de l'Ayurveda vont s'intéresser maintenant un petit peu plus à cette nouvelle approche de l'aromathérapie. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir des sujets similaires bientôt. Je te dis au revoir. Et à bientôt.
Au revoir, Jo. Merci, à bientôt.